De Kivrot à Tava, le peuple partit pour Hatzeroth et on campa à Hatzeroth. Supposons que nous sommes à Hatzeroth. Myriam, ainsi qu'Aaron, parla. Oui, le verbe est au singulier. Il semble que le sujet principal c'est Myriam et Aaron est un peu en seconde position. Parla contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait épousé une femme couchite. C'est curieux de voir que tant dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne et chez les savants modernes, on assimile cette femme couchite avec Tsipora. Et il dit, Dieu ne parturait-il donc à Moïse? Et alors, justement, vous vous rappelez ce qu'on a raconté hier, là, que Tsipora avait été répudiée par Moïse, on ne sait pas dans quelles circonstances. On fait l'hypothèse que c'est depuis la vision du buisson ardent, il avait laissé un petit peu tomber sa femme, l'attention qu'il a portée à sa femme. Et alors maintenant, la révolte des femmes, ici, enfin, qui suit l'effusion de l'esprit, serait causée par ceci, que si l'esprit de Moïse est réparti par Dieu sur 70 anciens, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les femmes des 70 anciens se disent, alors nos maris vont se désintéresser aussi de nous. Et alors, une révolte. Enfin, ça, c'est plus de la Bible, hein, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, mais Midrashi. Vous interrogerez les spécialistes là-dessus. Ils disent, Dieu ne parlerait-il donc à Moïse? N'a-t-il pas parlé à nous aussi? Dieu entendit. Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. C'est intéressant de voir comment un homme humble se comporte dans la contestation. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Alors Dieu convoque Moïse, Aaron et Myriam devant la tente du rendez-vous et leur dit, écoutez donc mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, c'est en vision que je me révèle à lui, c'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, toute ma maison lui est confiée, je lui parle face à face, dans l'évidence et non en énigme, il voit la forme de Dieu. Alors, vous avez un texte extrêmement fort ici qui montre la transcendance du prophétisme de Moïse par rapport à tous les autres prophètes. Et c'est d'autant plus intéressant à noter que pour nous dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, c'est à partir de ce texte que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dégage encore la transcendance de Jésus par rapport à Moïse. Moïse, à la vérité, a été fidèle dans toute sa maison en qualité de serviteur pour témoigner de ce qui devait être dit, tandis que le Christ, lui, il a été en qualité de fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous gardions l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance. Ce texte est très fort, je lui parle face à face, dans l'évidence et non en énigme, il voit la forme de Dieu. Pourquoi avez-vous osé parler contre mon serviteur Moïse? La colère de Dieu s'enflamma contre eux, il partit, et la nuée quitta la tente, et Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Alors intercède pour elle, Aaron intercède pour elle, veuille ne pas nous infliger la peine du péché que nous avons eu la folie de commettre, dont nous sommes coupables, je t'en prie, qu'elle ne soit pas comme l'avorton dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. Et Moïse implora Dieu, Dieu dit, daigne la guérir, je t'en prie. Alors, elle est séquestrée hors du camp pendant 7 jours, et le peuple ne part pas avant sa rentrée, puis le peuple partit de Hatzeroth, et elle a campé dans le désert de Paran. Alors ensuite, il y a un récit que je ne sais pas comment lire, on gardera peut-être mieux, tenez pour demain, c'est les éclaireurs là. Mais il y a un deuxième récit de révolte un peu plus loin, le chapitre 16, un autre récit de révolte alors beaucoup plus impressionnant. Si vous voulez, on va aller un petit peu plus loin, là, le paysage devient de plus en plus impressionnant et on trouve comme une caverne, on dirait que la terre s'est entrouverte et on ne peut pas être mieux que là pour lire le récit de la révolte de Dathan et d'Abiram, au chapitre 16 des Nombres. Coré, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Dathan, Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pelet, Eliab et Pelet étaient fils de Ruben, furent orgueilleux. Vous avez deux types ici de frustrés, les uns qui appartiennent au clergé, on peut dire fils de Lévi, là, et d'autres qui sont de la descendance de Ruben. Et vous savez que Ruben était l'aîné, et Ruben était évincé à la suite de l'inceste qui est raconté dans la Genèse, et ses descendants ont dû garder comme une espèce de frustration de cette éviction de leur ancêtre, et Judas prenant la première place. Alors ces deux types de frustrés là sont orgueilleux et se dressent contre Moïse, ainsi que 250 des Israélites, princes de la communauté, considérés dans les solennités, hommes de renom, des VIP comme on dit aujourd'hui. Ils s'attroupèrent entre Moïse et Aaron en leur disant « Vous passez la mesure ». On va s'accuser de passer la mesure. C'est toute la communauté, ce sont tous les membres qui sont consacrés et Dieu est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la communauté de Dieu ? Question qui est toujours actuelle. Moïse, l'ayant entendu, tomba la face contre terre. Alors il demande un signe de Dieu. C'est Dieu celui que choisira. Ce que Dieu choisira, c'est lui l'homme consacré. Vous passez la mesure, fils de Lévi. Vous passez la mesure. Écoutez donc, fils de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait distingué de la communauté d'Israël, vous appelant auprès de lui pour faire le service de la demeure de Dieu, vous plaçant en face de cette communauté quand vous officiez pour elle ? Il t'a appelé auprès de lui, toi avec toi tous tes frères les Lévites, et vous voulez en plus être prêtre ? C'est contre Dieu que vous êtes ligués, toi et ton groupe. C'est donc à Aaron. Et qu'est donc à Aaron pour que vous murmuriez contre lui ? Alors ensuite, après s'être tourné contre les Lévites, là, Moïse se tourne contre les descendants de Ruben. Il envoya appeler Datan et Abiram, fils d'Eliab. Ils répondirent, nous ne viendrons pas. Et alors ils font une espèce de propagande à rebours, oh là, terrible, écoutez comme c'est venimeux. N'est-ce pas assez de nous avoir fait quitter une terre qui ruisselle de lait et de miel, l'Égypte ? On a quitté, on était si bien dans la servitude, là. Pour nous faire crever en ce désert, que tu veuilles encore t'ériger en prince sur nous ? Ah, ce n'est pas une terre qui ruisselle de lait et de miel où tu nous as conduits. Et tu ne nous as pas donné en héritage des champs et des vergers. Penses-tu rendre ces gens aveugles ? Nous ne viendrons pas, nous ne viendrons pas. Moïse entra dans une violente colère. Oui, et le plus doux des hommes que la terre ait porté entra dans une violente colère. Et remarquez dans l'évangile, Jésus, doux et humble de cœur, qui lave les pieds de ses apôtres, il n'a pas trouvé le moyen de résoudre certains problèmes, sinon par des fouets de corde. Alors, la colère et l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité ? Et est-ce que la colère... Alors, je rappelle de saint Thomas d'Aquin, là, il distingue la colère antécédente et la colère conséquente. La colère antécédente, c'est... On se laisse emporter par la colère. Et ça, c'est jamais bon. C'est jamais constructif. Et il va chercher, dans le livre du Siracide, là, qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique, pas une comparaison qui dit bien ce qu'elle veut dire. Tel l'eunuque qui voudrait déflorer une jeune fille, tel celui qui prétend rendre la justice par la violence. Ça, c'est la colère antécédente. Se laisser emporter par la colère, ça va jamais très loin. Et puis la colère conséquente, alors là, c'est se mettre en colère. Mais ayant respecté les étapes, c'est la question, qui est le plus grand ? Elle se pose dans l'Évangile, elle se pose dans les communautés chrétiennes et saint Matthieu la traite, elle se pose à toutes les époques de l'histoire, elle se pose dans toutes les communautés, et c'est intéressant de voir ce problème-là. Et puis de distinguer l'humilité, et puis comment faire quand il y a des conflits dans des communautés. Dans saint Marc, c'est très très pittoresque, là, Jésus marche en avant, et puis tout d'un coup il se retourne, et il dit à ses apôtres, de quoi est-ce que vous discutiez là, derrière ? Alors ils se regardent, ils sont embêtés, ils discutaient pour savoir qu'est-ce qui était le plus grand. Alors, dans saint Matthieu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là ? Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a la correction fraternelle, quand ça ne va pas, il faut procéder par étapes. D'abord, si ton frère vient à pécher, va le trouver, reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. Et puis ensuite, ils disent, priez là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une hiérarchie à suivre. Mais alors, il faut savoir qu'il y a un moment où il faut quelquefois intervenir. Et à ce moment-là, mobiliser quelquefois la colère. Ça fait secréter d'adrénaline, je crois, sur le nom de médecin. Et ça donne un surcroît de force. Et puis, quand on a fait ce qu'il fallait, quelquefois, il faut faire des mises au point. Et plus on tarde à les faire, alors qu'est-ce que c'est que l'humilité là-dedans ? Est-ce que ça consiste à s'effacer ? Est-ce que ça consiste à toujours disparaître ? Pas du tout, surtout quand on est investi d'une responsabilité. Et, alors, voyez-vous, la Bible ici m'apparaît, moi, comme une admirable école de discernement. Nous vivons dans un monde d'amalgame. C'est ce que c'est que l'amalgame. Hein. On décrit une situation là, ensuite une autre odieuse, puis mine de rien, ça déteint l'une sur l'autre. Hein. C'est un procédé qui est utilisé couramment dans la publicité, dans la politique, dans le journalisme, partout. Et je crois qu'actuellement, si nous voulons garder la lucidité et la liberté, il faut que nous mettions à cette école de discernement qu'est la Bible. Alors que nous vivons dans un monde d'amalgame. Ici, on est appelé à distinguer l'humilité puis le complexe d'infériorité. C'est pas du tout la même chose. Vous avez des gens qui s'effacent, qui s'effacent, qui s'effacent, mais alors une espèce de rancune, de ressentiment s'accumule, et puis ça explose comme des volcans à certains moments. Et l'humilité, c'est de ne pas être au-dessus, mais pas être non plus en dessous. Ça correspond à la vérité. Hein. Ça correspond à la vérité. Il ne faut pas s'effacer systématiquement par humilité, il faut quelquefois agir avec force. Les gens sont souvent frappés dans les groupes là, par cette école, la Bible comme école de discernement dans le monde d'amalgame. Il y a une histoire qui m'arrive à propos de la correction fraternelle. On dit dans l'ordre dominicain que Saint Dominique n'intervenait jamais à chaud quand ça tournait pas rond, qu'il attendait le soir, qu'il prenait le frère à part, et puis que là, il mettait la question sur le tapis, sur la table, et puis que ensuite, les rapports fraternels étaient encore améliorés. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est dans Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, il y a tout un article qui est consacré à la correction fraternelle, en traité de la charité. Enfin, vous savez comment c'est construit, les questions, les réponses, et puis la rigueur de la pensée, et pas non parce que, non parce que, non parce que, si parce que, cette contra là, puis ensuite on développe l'article là, puis ensuite on répond aux objections. Alors il arrive à la correction fraternelle, et puis il se demande est-ce qu'il faut pratiquer la correction fraternelle envers les supérieurs. Hein, donc c'est une question qu'on peut peut-être pas se poser dans d'autres ordres. Chez les dominicains, le prieur est prieur inter pares. Hein, alors il se pose la question. Alors non parce que, non parce que, non parce que, s'il faut le faire, il faut le faire parce que, puis on répond aux objections, et il conclut positivement, il faut pratiquer la correction fraternelle envers les frères supérieurs. Bon. Alors, dans la célèbre édition Léonine de ce soir, tu as dû entendre parler de cette histoire-là, dans la marge au crayon, il est marqué « J'ai essayé, c'est pas à faire ». Bon, mais voyez, quand ça marche pas, il faut mettre la question sur la table et puis ensuite engager le débat. Et c'est un devoir pour l'Église de mettre les choses au point. Et vous savez, l'Église a pris ses distances dans l'histoire de l'Église quand on étudie un peu parmi des plus grands personnages qu'elle respecte le plus, qu'elle canonise. Saint Thomas d'Aquin, qu'elle reconnaît comme le docteur commun, le dogme de l'Immaculée Conception, il n'était pas pour sa définition. Ou bien alors, au Concile d'Orange, on n'a pas adopté les conclusions de Saint Augustin sur la liberté, sur la prédestination. Non, alors si l'Église prend ses distances par rapport à des personnages aussi grands et aussi respectables que Saint Augustin, que Saint Thomas d'Aquin, à combien plus forte raison a-t-elle le droit, le devoir de le faire, hein? Et on a passé le temps d'inquisition, vous savez, je pourrais vous en raconter, parce que j'ai écouté à l'université hébraïque toute l'histoire de l'Église à l'envers. Hein? Parce que c'est comme ça que les Juifs la voient, hélas. Et alors, qu'est-ce qu'on peut ramasser au temps de l'Inquisition, au temps des croisades, au temps des conquistadors, tout ce que vous voudrez? Bon, il faut savoir encaisser, intégrer. Actuellement, il faut avouer que quand on compare à d'autres sociétés où on pratique l'assassinat ou la mise en hôpital psychiatrique, le procédé est encore relativement élégant. Je crois qu'il y a eu des époques. Hein. Il y a un bouquin qui vient de sortir récemment qui montre. Mais je crois qu'on a surpassé un peu tout cela. Et alors, quand quelqu'un n'est pas d'accord, on lui demande à venir s'expliquer. Et puis, si c'est pas encore clair, on lui demande de venir s'expliquer de nouveau. Et puis ensuite, s'il persiste, alors là, on doit obéir à sa conscience, même si elle est fausse. Mais alors, à ce moment-là, on lui dit, écoutez, vous pensez comme ça, agissez sur votre conscience, mais ne dites plus que vous dites que vous pensez à la doctrine de l'Église, parce que l'Église n'est pas d'accord. Et ça, elle a le devoir de le faire au service de la vérité. Et alors, l'humilité, ça consiste pas à s'effacer, ça consiste à être dans une attitude de vérité. Ni trop bas, mais ni trop haut, ni trop bas. Et Saint Paul, quand il parle à Timothée, il dit qu'il doit avoir un esprit non pas de timidité, mais d'assurance. Et Jésus, lorsqu'il donne le plus grand exemple d'humilité, lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, vous vous rappelez, ce geste prophétique, là, il prend un linge, il se ceint les reins, Ils ont d'abord le temps de voir, et puis ils leur lavent les pieds, ça a dû durer un certain temps. Ensuite, ils ont dit, heureux de vous si vous avez compris cela. Je suis le maître et seigneur, vous avez raison de m'appeler comme ça. Ceci dit, je vous lave les pieds. Celui qui voudra être le plus grand, ce sera le serviteur de tous. C'est comme ça que le pape signe les documents, serviteur des serviteurs de Jésus-Christ. Alors voilà, chaque fois qu'on arrive ici, je demande aux gens de m'enrichir un peu une liste que j'ai faite sur cette histoire de Bible comme école de discernement dans un monde d'amalgame. Oui, le papier, hélas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un type qui a trouvé ça tellement intéressant qu'il m'a demandé à prêter, et puis il l'a mis dans sa poche. Ensuite on a monté la côte là-bas sous le soleil, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le papier est tellement déteint que c'est tout juste si j'arrive à m'y retrouver encore un peu. On a déjà fait pas mal de discernement, vu la production de la fécondité. Les esclavages de la production, les épanouissements de la fécondité, les doutes et les problèmes. Pas mille problèmes font pas un doute. Le complexe d'infériorité et l'humilité, tandis que c'est pas la même chose. L'accusation et la correction fraternelle. Vous savez comment on l'appelle l'accusateur dans la Bible ?
Satan.
Il y a une manière de présenter la vérité qui ne fait qu'enfoncer l'autre dans le mal, alors que tout le problème c'est de l'en sortir. Et la correction fraternelle est positive. Le gaspillage, la générosité, et l'économie et la pauvreté, la culpabilité et le repentir. L'univers morbide de la faute, dont parlait un célèbre docteur, là, Hénard, il y a déjà longtemps, l'univers morbide de la faute. Alors que nous sommes appelés, comme David, à rebondir, dans le repentir et puis à devenir une créature nouvelle. La résignation et la patience, c'est pas la même chose. Et l'agressivité et la force, c'est souvent les êtres faibles qui sont agressifs, parce qu'ils sont pas dans leur assiette. L'assistance et le don, ça vient de missionnaires, j'en ai dans les groupes là, qui viennent à Jérusalem. Et c'est pas tout de donner des choses, il faut plutôt se mettre au niveau des gens, puis de l'intérieur les aider à résoudre leurs problèmes. L'obéissance, c'est la flagornerie, c'est pas la même chose non plus, la servilité. Le sacrifice et le refoulement. La curiosité et la sollicitude. L'indifférence et le détachement. La joie et le plaisir. La sincérité et la vérité. Le silence et le mutisme. La providence et puis la fatalité. L'habitude et la routine. L'habitude qui libère et la routine qui fait rouler dans des ornières interminables. La foi et la crédulité. Et l'émulation et la jalousie. Et on nous faisait lire à la liturgie des heures un magnifique document là, de l'amitié entre Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze alors qu'ils étaient étudiants à Athènes, et l'émulation qu'il y avait entre eux alors qu'il y avait une amitié parfaite. Enfin bref, oui, je crois que insensiblement, si on fréquente la Bible, on est amené à ne pas se laisser prendre au piège de l'amalgame. Et c'est plus important maintenant que jamais, une école de discernement. Vous n'avez rien à ajouter à cette liste-là? Je profiterai pour ajouter, il faudra que je recopie le papier, là. Bon, pas beaucoup de choses à rajouter, là, sur ce chapitre, si, comment ça se termine, tragiquement. Et alors là, justement, pour justifier le décor où nous sommes, tenez, je reprends le livre des Nombres. Ô Dieu, Dieu des esprits, qui anime toute chair, vas-tu t'irriter contre toute la communauté quand un seul pêche? À ceci, vous saurez que c'est Dieu qui m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres et que je ne le fais pas de mon propre gré. Mon propre chef. Si ces gens meurent de mort naturelle, atteints par la sentence commune à tous les hommes, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si Dieu fait quelque chose d'inouï, si la terre ouvre sa bouche et les engloutit, eux et tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants au Shéol, vous saurez que ces gens ont rejeté Dieu. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ils descendirent vivants au Shéol. C'est récit impressionnant, là, puis ça nous amène à voir des situations toujours contemporaines et l'actualité de l'Évangile qu'on a toujours à retrouver. C'est le plus neuf de tous les livres.
C'est quand même sans pitié, ce châtiment.
Oui, parce que, encore une fois, Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, là où ils en sont, et puis ça progresse vers le Nouveau Testament, encore une fois. Moi, je crois que lire la Bible sans le Christ, ça amène à des comportements anachroniques, et ça peut justifier les comportements anachroniques et des impasses.
Parce qu'on est presque dans la loi du Talion, là.
Oui. Mais encore une fois, on est récupéré tel que nous sommes là où nous en sommes. Alors, pas pour être encouragé à végéter dans des situations anachroniques, mais Dieu nous prend tel que nous sommes là où nous en sommes pour nous embrayer sur cette route qui amène au Christ qui accomplit les Écritures. Alors là, ce texte de saint Matthieu qu'on a lu, sont vraiment tellement actuels. Enfin, comment il faut faire quand ça ne marche pas? Et puis prier en commun, parce que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien des problèmes trouvent leur solution, comme ça. On trouve ça, tenez, dans les textes, dans les Pirkei Avot, j'ai noté ça dans mon... Oui.
Veshnaim chez Yosevin, veyesh beinehem divre Torah, shechina shuruya beinehem. C'est dans les Pirkei Avot, Gimel, Chet, chapitre 3, 8.
Quand deux ou trois sont réunis pour dire la Torah, la présence de Dieu habite au milieu d'eux.
C'est parti.
Voilà. Alors cette marche dans le désert là, du mercredi et du jeudi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Disons plutôt le jour 4 et le jour 5. Demain on va tourner la page là, et maintenant on n'est pas encore à midi, mais après cet après-midi il y a une nécessité, il faut aller se laver, faire la lessive, faire des provisions à Eilat. Alors on va conclure maintenant, avant de retrouver l'autobus, et puis on mangera parce qu'il y a encore un petit peu d'ombre là dans les rochers. Ensuite on sacrifiera l'après-midi aux nécessités. Il y a aussi la mer promise là, et on ne pourrait pas continuer si on n'allait pas se décrasser un peu dans la mer et puis faire des achats, des provisions à Eilat. Alors on va profiter du point d'ombre qui est là-bas dans la descente, c'est le dernier. Après ça on va cheminer encore au soleil pendant une demi-heure avant de retrouver le bus aux colonnes d'Amram. Alors je prends pour résumé cette expérience où le peuple de Dieu a trouvé son identité au désert, la pédagogie divine du désert, dans le chapitre 8, celui-là même que Jésus cite, lorsque, au début de son ministère public, il fait une retraite de 40 jours au désert. Et manifestement, il veut reprendre dans ces 40 jours, où il formule ses options messianiques, l'aventure des 40 ans. Que nous allons continuer à vivre demain en remontant jusqu'au mont Nebo où Moïse meurt. À Jéricho, nous passerons de Moïse à Jésus-Christ. Alors Jean-Baptiste, vous connaissez le tableau de Grunewald là, Jean-Baptiste qui a les pieds solidement plantés en terre, qui a le livre.
Le doigt pointé vers l'index
hypertrophique. Oui. On n'est pas encore là, mais on va résumer maintenant cette première étape de la retraite, si vous voulez, cette marche décisive là. Et on va prendre le texte que Jésus cite lors des 40 jours de sa retraite au désert, chapitre 8 du Deutéronome. Je le prends à partir du verset 2. Tu te souviendras, la mémoire, hein, tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé, et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que Dieu, ton Dieu, te corrigeait comme un père corrige son enfant, et garde ses commandements. Le Seigneur, ton Dieu, te conduit vers un heureux pays, pays de cours d'eau, de sources qui sourdent de l'abîme dans les vallées comme dans les montagnes, pays de froment et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, d'oliviers, d'huile et de miel, pays où le pain ne te sera pas mesuré, où tu ne manqueras de rien, pays où il y a des pierres de fer et d'où tu extrairas dans la montagne le bronze. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu rendras grâce. Je ne veux pas dire bénir parce que c'est trop banalisé. Tu feras l'Eucharistie. Vous voyez, dans le désert, on retrouve la dimension verticale de l'action de grâce, qui est la clé de l'harmonie universelle. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu feras la bénédiction, l'Eucharistie, au Seigneur ton Dieu, en cet heureux pays qu'il t'a donné. D'olivier, d'huile et de miel, pays où le pain ne te sera pas mesuré, où tu ne manqueras de rien, pays où il y a des pierres de fer et d'où tu extrairas dans la montagne le bronze. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu rendras grâce. Je ne veux pas dire bénir parce que c'est trop banalisé. Tu feras l'Eucharistie. Vous voyez, dans le désert, on retrouve la dimension verticale de l'action de grâce, qui est la clé de l'harmonie universelle. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu feras la bénédiction, l'Eucharistie, au Seigneur ton Dieu, en cet heureux pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, en négligeant ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tu auras mangé, et te seras rassasié. Quand tu auras bâti de belles maisons et les habiteras, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit bétail, abonder ton argent et ton or, s'accroître tous tes biens, que tout cela n'élève pas ton cœur. N'oublie pas alors le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Lui qui t'a fait passer à travers ce désert grand et redoutable, pays de serpents brûlants, des scorpions et de la soif. Lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure. Lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour que ton avenir soit heureux. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont fait agir avec cette puissance. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, c'est lui qui t'a donné cette force pour agir avec puissance, gardant ainsi comme aujourd'hui l'alliance jurée à tes pères. Oui, la conclusion, c'est que l'action de grâce est l'identité de ce peuple juif. Yehudim, l'eurodot, ça veut dire rendre grâce en louant. D'où le mot Todah Rabba que vous connaissez. Et l'action de grâce, encore une fois, c'est la clé de l'harmonie universelle. Et on a l'habitude, là, à la fin de cette marche, de... C'est un petit frère de Foucault, hein, qui sait très très bien l'hébreu, et qui a composé aussi des mélodies, là. Et il a mis en musique l'offertoire de la messe que l'Église n'hésite pas à emprunter à la prière juive. Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Moi, je ne sais pas chanter, mais toi, il me semble que tu l'as fait à la BST, tu le sais. Hein? Tu ne pourrais pas nous le chanter, là? Ce serait une excellente conclusion. Et puis, qu'on perde l'habitude de manger sans venir à la table, c'est pas normal, ça.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Amotzi lechem min haaretz, alleluia.